m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un dessinateur tout-terrain que nous recevons aujourd'hui. Grand prix de la bande dessinée d'Angoulême en 2008. François Bouc s'est illustré dans la caricature politique et le dessin de presse. Il y revient d'ailleurs avec un petit livre autour des tweets de Donald Trump. On y reviendra tout à l'heure. Mais il a aussi tutoyé le polar avec la couverture du San Antonio de Frédéric Dard, entrepris un spin-off de la série 13, repris le Super Dupont créé par Loeb et Gottlieb. Il a également imaginé les aventures d'un agent d'assurance en costume léopard, Jérôme Mouchereau, du justicier Rock Mastard, pastiche décapant et absurde des héros à la Indiana Jones ou des agents secrets de la curie romaine. J'en passe bien évidemment, mais il faut dire que le temps nous est compté. Il expose en tout cas en ce moment à Paris et Bruxelles, à la galerie Huberti et Brenne, et sort un diptyque des aventures du Bouncer, le justicier manchot de l'Ouest américain qu'il a créé avec le génie qu'est Alejandro Jodorowsky. Le voici à présent seul aux manettes de la série, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en donne à cœur joie. Les deux derniers albums du Bouncer, L'Or Maudit et L'Échine du Dragon, sont parus aux éditions Glénat, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour François Bouc.
Bonjour.
Le Bouncer sans Jodorowsky, c'est toujours le Bouncer ?
Ah, c'est toujours le Bouncer. En fait, le Bouncer, il est quelqu'un à part entière. C'est quelqu'un qu'on a créé ensemble, mais qui finit par être une entité qui presque comme un, vous savez, comme les acteurs qui veulent jouer. Il y a un moment où il vous dit alors quand est-ce que je fais ma prochaine aventure ?
Ah oui, il a pris sa liberté complètement par rapport à ses créateurs. Mais qu'est-ce que vous gardez de votre collaboration avec Jodorowsky ?
Ah ben. Je crois que on a participé à l'état d'esprit de la création du personnage, de l'ambiance du personnage. Et donc quand je me pose des questions, comme c'était le cas pour cet album, il n'est pas du tout exclu que Alexandro revienne. Là, j'ai fait une petite intrusion dans la totalité du scénario, mais peut-être que lui reviendra. Et là, il était très occupé.
Oui, il fait beaucoup de choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Lui aussi.
Voilà. Et donc j'ai pu développer cette partie-là, mais en tout cas je la développe, ou j'essaye de la développer dans le même état d'esprit que celui avec lequel on l'a créé.
Alors comment est-ce qu'il est né justement ce personnage de dandy manchot, comme on dit quand on aime le jeu de mots?
Ouais, c'est pas mal ça.
Pas mal.
Comment il est né? Alors il est né. Je vais vous refaire un petit peu l'historique, c'était assez rigolo, parce que moi je voulais pas faire de western, tant que Giraud existait, ça me semblait tellement absurde de faire du western.
Après Blueberry.
Blueberry, c'était tellement magnifique, admirable, tout ça, à tout point de vue, au point de vue du graphisme, toutes les inventions qu'il avait faites dans cette série. Et donc, un jour, c'est lui qui vient me voir et qui me propose de faire un Blueberry. Et donc, j'ai vu ça comme s'il me donnait l'autorisation de venir sur un territoire inconnu.
D'accord.
Ou en tout cas, un territoire que je m'étais refusé d'arpenter. Et donc, ok, on a essayé de travailler sur ce Blueberry qui devait être un Blueberry vieillissant. C'était pour ça aussi que c'était intéressant de le faire. J'aurais jamais fait un Blueberry à l'époque où lui il le dessinait. Et puis finalement le projet s'est pas fait. Et donc un jour Alexandro m'appelle en me disant mais tu sais ton projet là que tu voulais faire, moi ça fait des années que je veux faire un western. Faisons-le ensemble tout de suite. Et donc on s'est décidé pratiquement sur la journée. On s'appelle le matin pour discuter de ça. Et puis il me dit quand est-ce qu'on commence? Ben, je dis, écoute, j'ai une petite histoire, je lui raconte une petite histoire de samouraï,
ouais.
Une histoire vraie. Et à partir de cette histoire de samouraï, on s'est dit, on va faire un personnage, c'est lui qui voulait que le personnage soit manchot, et on va faire cette histoire-là, et on a commencé pratiquement l'après-midi du jour même.
Comme ça, a l'air simple, hein, finalement, les grandes aventures en bande dessinée. Alors François Bouc, c'est un super tireur, hein, il est manchot, mais il tire, j'allais dire plus vite que son nom, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Lucky Luke, mais enfin, il tire quand même extrêmement bien, extrêmement vite. Surtout, c'est un justicier, c'est un homme à principe, il y a un petit côté romantique chez ce personnage, vous trouvez pas?
Oui, c'est un personnage romanesque, sans problème. Et ce qui était intéressant, à la longue, à force de pétrir ce sujet, je me dis, mais au fond, ce qui est intéressant avec le western, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi faire du western aujourd'hui, il y a tellement de trucs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le western est un cadre qui permet de resituer l'être dans son essence. C'est-à-dire que c'est un être humain qui est face à la nature, face à la cruauté des hommes, face à tous les sentiments les plus excessifs de l'être humain, face aux contrées sauvages habitées de faune. Et tout ça, ça replace l'être humain dans cet aspect essentiel. De ce point de vue, on peut raconter tout de suite une histoire en étant dans l'excès, puisque le cadre est posé d'emblée et il est accepté par le lecteur.
Alors, dans ce diptyque qui vient donc de sortir aux éditions Glénat, le Bounceur part à la recherche d'une enfant, une gamine, hein, oui. Enlevée par un groupe de méchants sans foi ni loi, évidemment, parce qu'on va pas tout révéler. Mais enfin, disons que sur elle, il y a un élément important, voilà, hein, qui permettra ou pas à cette bande de méchants de découvrir quelque chose de très convoité. On va s'arrêter là, voilà. Mais donc, évidemment, je l'ai déjà
soyons
dit.
Soyons elliptiques.
Voilà, soyons elliptiques, parce que bon, il y a des surprises à quasiment chaque page dans l'album. Hein, donc, faut quand même garder un peu de plaisir à ceux qui nous écoutent lorsqu'ils découvriront les albums. Mais donc, il y a des méchants, évidemment, d'une cruauté et d'un cynisme absolument implacable.
Plus les méchants sont méchants,
oui,
meilleur sera le héros.
Oui, vous n'avez pas de limite, là.
Non.
Parce qu'on se dit parfois, en particulier dans ces deux albums, on se dit, mais finalement, les méchants, vous les mettez beaucoup plus en valeur que le Bounceur.
Oui, parce que c'est eux qui vont donner le caractère héroïque au personnage principal. S'il n'y a pas les épreuves, s'il n'y a pas les méchants, le héros, il va pas avoir les vertus d'avoir combattu la haine, la violence, ouais, la plus excessive.
Ouais. Et ça passe évidemment par le scénario, par les péripéties que vous inventez, ça passe, voilà, aussi par votre dessin. Voilà. Ça se dessine comme un héros, un méchant, ou bien c'est vraiment...
Exactement comme un héros. Il faut aimer le méchant autant qu'on aime le héros. Parce que je me suis rendu compte de ça, on peut pas négliger un personnage, on peut pas se dire bon, je fais un méchant mais je le supporte pas, tant pis, je le dessinerai un peu par-dessus la jambe. C'est pas possible, il faut le dessiner avec une précision, avec d'une certaine manière une attention la plus fine possible, parce que c'est lui qui va révéler l'héroïsme. Et donc le calibrage, la morphopsychologie, tout ça, ça s'étudie énormément, de façon à ce que rien qu'en apparence, quand il apparaît le héros, le méchant, dans ce cas-là, le lecteur se dit « Oh putain, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là ?»
Voilà, exactement. Donc il s'attend à tout, mais vous arrivez quand même encore à le surprendre. Et c'est ça qui est assez fort. Alors, il y a un super méchant dans les deux albums. Il s'appelle El Cuchillo, ce qui signifie le couteau, hein,
voilà,
en espagnol. Et ce personnage-là, on le retrouve dans une scène du tome 2 que nous avons mise en onde avec notre réalisateur Michael Goncalves. Alors c'est la scène du canyon, hein, si je peux dire, hein, quand le convoi qui transporte la prisonnière, pénètre dans un canyon dans lequel siffle le vent, avec un guide que ce fameux méchant a réquisitionné de force. Nous sommes page 18 de ce tome 2.
Oh, qu'est-ce que tu fais? On continue? Tu t'es trompé, c'est ça?
Non, Réfé, on est dans le bon canyon. Ma chef nous a bien guidés, c'est bien au bout que vous pourrez sortir.
Et toi?
Moi, je rentre. Je ne vais pas là-bas. Vous entendez ce sifflement? C'est celui de l'esprit du canyon. Ici, c'est juste un sifflement. Mais plus on avance, et plus il devient insupportable. Il paraît que son hurlement peut rendre fou. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom de Canyon du Fou.
Tu cherches encore à nous faire rebrousser chemin avec tes superstitions. Il n'y a pas plus d'esprit ici que dans ta cervelle d'ivrogne. C'est juste le frottement du vent sur les parois, imbécile.
Tu as sûrement raison, patron. Mais moi, j'y crois. Vous n'avez plus qu'à suivre ce chemin jusqu'au bout. Et vous y serez. Protégez vos oreilles et ça ira. Buena suerte.
Hey! On ne laisse aucun témoin derrière nous. C'est bon, il a son compte. Il n'avait pas tort. Le bruit du vent sur cette roche est diabolique. Avance, toi! Plus vite tu iras, plus vite on sortira de cet enfer!
Nom de Dieu! Mais c'est pas humain, ce bruit!
Avancez, dépêchez-vous, Madre Dios! J'ai le diable qui me hurle dans le crâne! Il faut absolument sortir de ce piège avant que nos cerveaux explosent!
Et merde! Le passage est trop étroit!
Je suis coincé! Sortez! de Dieu!
Voilà, princesse. C'est pas vrai! Décidément, elle a juré de nous emmerder jusqu'au bout!
Dépêchez-vous, ma tête va éclater!
T'as trop attendu, El Cochillo. Le moment est venu de nous libérer du poids de ta grosse vache.
Mon pauvre Zébio, tu ne comprends donc jamais, fichu imbécile prétentieux. Je t'avais pourtant prévenu.
Voilà, et El Cochillo, le couteau a donc encore frappé, hein, puisque la lame à la fin de cet extrait arrive pile sur la poitrine du personnage. Ça vous fait plaisir, visiblement, hein, oui, d'entendre vos personnages mis en voix.
C'est rigolo des dialogues comme ça qu'on écrit, hein, en se disant, bon, bah, ils sont valables, bien sûr, pour la vision, puisque le lecteur lit avec ses yeux. Mais les entendre, je dis, ah, bah, après tout, ils sonnent bien.
Oui, ça sonne très bien, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de regarder un film quand on tourne les pages de ces deux albums. Vous aviez comme ça une idée, oui, de film de cinéma. Vous avez travaillé à partir d'un storyboard. Vous avez pensé à cette dimension-là?
Je pense en images, bien sûr. Hein, le déroulé d'un album de bande dessinée, c'est l'album, la bande dessinée, c'est raconter une histoire en images.
Mmh. Mais avec le rythme aussi.
Avec le rythme, bien sûr. Le rythme, en fait, vous savez, c'est un peu comme un oscillographe. Le dessin et la bande dessinée, hein. C'est-à-dire que on a la vibration du cerveau du dessinateur qui passe par la main et qui finit par installer une oscillographie sur la feuille de papier. C'est un peu comme ça. Ce qui fait que, au fond, on devrait considérer que un album de bande dessinée, c'est un seul dessin qui commence avec la première case et qui finit avec la dernière, d'une manière ininterrompue comme ça. Et donc tout est question de rythme, de vibration, d'intensité. Après on va calmer, et tout ça doit être une sorte d'enchantement. En tout cas j'essaie de le faire comme ça, un enchantement pour les yeux.
Alors j'ai lu François Bouc que vous aviez commencé à dessiner l'histoire avant même que le scénario ne prenne fin dans votre tête, c'est vrai?
Oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, c'est très étrange, mais l'histoire, elle finit par tellement vous habiter que il faut lui faire confiance. Vous commencez l'histoire, et puis vous savez à peu près où vous allez. Ouais. Vous avez des scènes déjà un peu répertoriées comme ça dans votre tête, mais après, il faut vous laisser emporter par le truc, et les solutions arrivent au fur et à mesure. Les péripéties s'enchaînent. Par exemple, là, dans cette séquence, la grosse difficulté, c'était de donner à voir du son. Il faut que le lecteur voit que, à cet endroit-là, le son est tellement insupportable qu'il peut rendre fou.
Voilà. Et ça passe par quoi? Ça passe par les onomatopées écrites en noir, en majuscules, avec des tailles, des hauteurs différents, du gras, etc. Il y a plein de petits trucs, là, comme ça que vous utilisez.
Oui, il faut que ça soit visible graphiquement. Et donc, sans mettre, par exemple, un truc comme ça qui serait l'évocation de la stridence, j'essaye de trouver un graphisme qui corresponde à ce qu'on pourrait identifier comme un son sans être totalement un son. Il faut que ça soit à mi-chemin. Il faut que presque l'œil donne à l'oreille le sentiment du son qu'elle devrait...
Voilà, ça nous ramène au cinéaste ou au travail de metteur en scène, quoi. Dessinateur, c'est être, en quelque sorte, metteur en scène, François.
Sauf qu'on joue tous les personnages.
Voilà. Alors, parmi tous les personnages et la voix féminine qu'on a entendue dans l'extrait, il y a beaucoup de femmes, hein. Donc, la voix féminine qu'on entendait, c'est une princesse, dit l'un des personnages, mais comtesse, hein, plus exactement, chez Pachydermique, hein, qui fait partie du convoi. Il y a beaucoup de femmes, quand même, dans cet album, François Bouc. Beaucoup plus que dans les westerns traditionnels.
Oui, et ça c'est un truc qui est étonnant. Vous voyez, quand on parlait de l'histoire qui commence comme ça à se barrer, à la fin, je me dis, mais au fond, les péripéties, elles sont tout le temps pavées de femmes étonnantes. Et donc c'est presque comme si c'était une aventure où le héros va rencontrer des femmes, il va rencontrer une ogresse, il va essayer de protéger une petite fille, il va rencontrer des femmes sauvages,
oui.
mi-homme, mi-femme,
oui.
Il va rencontrer...
On va pas tout dire, hein, parce que il y a une énorme rencontre à la fin, mais juste pour savoir, puisque vous disiez que vous écriviez au fil de votre pinceau, enfin de votre crayon plus exactement, l'idée de la rencontre de fin, vous l'aviez quand même dès le départ. Elles sont pas arrivées là comme ça, ces femmes-là. Bon, voilà. Voilà. Donc, femmes, bon, on va, qui compte, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Et c'est une scène d'une violence absolument, absolument extraordinaire.
Hein. Oui.
Voilà.
Oui.
Bon, on va s'arrêter là. On dira un petit mot quand même des, parmi les autres personnages de ces deux croque-morts, qui sont des personnages, assez fantasque, des espèces de losers, enfin voilà. Bon voilà, la lance
poirée.
Oui, bon voilà, c'est pas des personnages fondamentaux, mais ils participent vraiment au comique et à la rythmique des deux albums.
Voilà, parce que il y a les personnages aussi qui doivent avoir comme rôle le rôle de la détente et d'avoir
il y a des soupapes de respiration,
voilà, quoi, de sécurité,
voilà,
de façon à ce que l'histoire soit pas non plus qu'univoque. Pour reprendre aussi ce que voulait quand on a commencé cette série avec Alexandro, lui, il avait dans l'idée de faire un western shakespearien. Et donc...
S'en est pas si loin.
Bon. Et dans Shakespeare, il y a aussi des personnages rigolos, il y a des personnages qui sont extraordinairement tragiques.
Ouais. Et puis il y a des personnages dont qu'on n'a pas encore évoqué. Ce sont les paysages. Parce que là, évidemment, vous régalez. Hein, parce que il y a des décors, hein, comme chez Shakespeare. Mais là, les décors sont réellement des personnages grandioses, pas du tout des personnages médiocres, quoi. Vous êtes rendu sur place dans cette région du Mexique ou des États-Unis, vous avez observé in situ, vous êtes imprégné de la couleur, de l'ambiance, de la poussière, de la lumière.
Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on peut pas raconter une histoire de western sans y avoir été.
Parce que certains travaillent sur photo aujourd'hui ou sur des sites internet avec des webcams qui permettent de loin de travailler. Vous, c'est pas votre cas. Vous avez besoin d'aller sur place in situ.
Et j'ai fait tellement de photos quand j'y étais. J'y suis allé 5-6 fois dans ces pays-là. Et on ne peut pas se rendre compte de l'envergure du paysage sans y avoir été. Et d'essayer de coller avec le dessin à cette envergure-là. Donc le dessin, c'est à la fois un argument d'interprétation de ces paysages, mais en même temps aussi, c'est le moyen, dans le cadre de la bande dessinée, d'inclure les personnages dans un fil, parce que tous les éléments graphiques interviennent dans une image.
Ouais.
Et donc, autant le paysage va créer la dramaturgie que les personnages eux-mêmes. C'est l'association de tous ces éléments.
Et puis, il y a la couleur aussi. Alors, j'ai vu que vous avez vous-même colorisé avec Alexandre Books.
Voilà, qui est mon neveu et filleul
en même temps. Neveu et filleul, voilà. Et la couleur permet aussi de séquencer l'histoire en petits chapitres, quoi.
Voilà, exactement. Il y a aussi toute une, il y a à la fois le noir et blanc, parfois des pages très très noires, mais aussi la couleur va jouer sur la lumière, sur les espaces sombres, la nuit, le jour, les roches rouges très très puissantes qu'on peut trouver dans Monument de Vallée par exemple, et qui vont faire sortir des verts. Enfin, toutes ces choses-là sont extraordinairement intéressantes à utiliser.
Voilà, et puis on va pas tout révéler, mais il y a deux énormes surprises à la fin du deuxième tome, et on a l'impression, alors je sais pas si cette impression va se confirmer dans les histoires suivantes, qu'on est à un tournant majeur dans la vie personnelle du Bounceur. On attend d'en savoir plus, mais évidemment, vous n'allez pas nous révéler dès maintenant. On va marquer une courte pause pour le flash François Bouc, et on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission. On va rester aux États-Unis, mais on va évoquer un autre personnage également haut en couleur, un personnage réel, celui-là. Vous ne l'avez pas créé, hein, mais vous le croquez avec beaucoup d'humour, d'ironie, parfois une dose de cruauté, mais aussi une certaine tendresse. Il faut bien le reconnaître, le livre s'appelle Trump en 108. Il s'agit effectivement du président actuel des États-Unis. Ce livre, vous le co-signez avec Vanessa Duhamel. Il est paru aux éditions I, et on en parle dans la deuxième partie de l'émission, et la journaliste au Figaro, Laure Mandeville, va nous rejoindre. Restez avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
VMDN avec l'auteur de bande dessinée François Bouc. Il s'expose actuellement jusqu'au 31 mars à la galerie Hubertier-Evrène à Paris et à Bruxelles. Et du 14 mars au 3 avril prochain, ce sera à la galerie Glénat, cette fois à Paris. Glénat qui publie les deux derniers tomes de la série Bouncer, dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Mais grosse actualité, hein, décidément, François Bouc, puisque vous sortez aussi aux éditions I, cette fois, avec le concours de Vanessa Duhamel, un petit livre intitulé « Trump en 100 tweets ». Alors, comment est née l'idée de ce livre ?
Ben, c'est l'éditeur et cette jeune femme qui se sont dit « Ah, ça serait bien de collecter une centaine de tweets et de... » et d'en faire un petit livret. Et bien sûr, ils m'ont demandé pour illustrer ces tweets, ce choix, de faire des dessins qui mettaient en scène le personnage. J'avais déjà fait des personnages de Trump pour un blog sur Le Monde, et donc je m'étais, au fur et à mesure de sa progression, familiarisé avec son physique, oui, et pour en faire finalement un personnage de bande dessinée. Mais au fond, je me demande même si il n'avait pas prévu ça. Ça, vous allez pouvoir me le dire, s'il n'avait pas prévu ça dans sa carrière. Alors bon, s'il n'avait pas l'envie de devenir un personnage de bande dessinée, parce qu'il a tout à fait le look d'un personnage qu'on peut utiliser graphiquement.
Alors, question adressée à Laure Mandeville, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez passé 8 ans comme correspondante aux États-Unis. Vous connaissez Donald Trump. Vous avez suivi dans son ascension en tant que patron, en tant que star de la télévision, ascension politique ensuite. Et vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage intitulé « Qui est vraiment Donald Trump ?» Une coédition Équateur Figaro. Alors, pour le coup, je vais vous poser la question que François Bouc posait lui-même à l'instant. Donald Trump, pour vous, avait-il tout pour devenir un personnage de bande dessinée ?
Oui, dans le sens que, enfin, j'aurais peut-être pas dit personnage de bande dessinée, mais au fond ça colle aussi. Mais pour moi, c'est un personnage romanesque, et c'est un personnage, comme disent les Américains, plus large que la vie. Vous savez l'expression en anglais, larger than life, c'est-à-dire tout chez lui est surdimensionné. Donc j'imagine que ça va bien avec les personnages de Bouc, c'est-à-dire que effectivement ça manière de parler, son attitude,
ses postures, ses
cheveux, sa stature, et évidemment tout ce qui va avec, en fait, cette espèce de montagne humaine, et aussi avec un charisme qu'on peut trouver ridicule, exaspérant, mais malgré tout, c'est un personnage charismatique et donc intéressant.
Quand vous dessinez Donald Trump, François Bouc, vous commencez par quoi ? Par la mèche ?
Oui, souvent, parce que c'est elle qui donne la direction. Par où il regarde, la mèche va être à droite, à gauche, et donc effectivement par ça. Et ensuite, on l'incline. Mais après, je m'aperçois que le reste de l'attitude est vachement intéressante aussi. La physionomie, la figure qui est prise au piège dans une grosse masse, un peu ce que vous dites, c'est-à-dire il y a finalement un tout petit nez, il y a des yeux qui sont relativement petits et légèrement bridés. Ensuite, une toute petite bouche, et qui est la plupart du temps boudeuse, ou rageuse, mais en tout cas, souvent une attitude de bouche d'enfant.
Oui, c'est ça, c'est un gamin que vous nous décrivez là, finalement, François Bouc.
Oui, j'ai l'impression, quand j'ai lu les tweets, et puis quand je le vois à la télévision, que c'est un gamin qui tempête, qui fait sa colère, qui réagit au quart de poil sans trop prêter d'attention à l'incidence que ça va avoir. J'ai l'impression que c'est un gamin attardé, un peu.
Laurent de Ville.
D'ailleurs, c'est amusant que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un côté enfantin dans le personnage, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Je me souviens d'une interview qu'il avait donnée, je crois que c'était au Washington Post, où un auteur qui a écrit un livre sur lui, où il disait, au fond, les traits de caractère que j'avais quand j'étais au CP, au cours préparatoire, j'ai pas vraiment changé.
Je suis
toujours le même. C'est-à-dire un homme batailleur, rebelle, toujours en rébellion, mais aussi... aussi capable de harceler les autres, mais aussi de les emmener, un meneur aussi. Donc tous ces traits de caractère qui évidemment oui.
on l'imagine dans une cour de récréation.
Quoi. Oui, il y a des détails extraordinaires qui ont été donnés dans différents papiers que j'en ai réunis quelques-uns dans mon bouquin, où par exemple il raconte quand il est à l'école primaire et il adore tirer les cheveux des filles, il fait des batailles dans la classe, ils font des courses, en fait il déplace son pupitre à toute vitesse pour enserrer le professeur, et donc à tel point que les initiales de Trump, DT, Donald Trump, étaient devenues les initiales du coin où les élèves étaient mis au piquet, parce qu'il y était très souvent.
Il avait investi dans l'immobilier de son école, si j'ai bien compris.
Voilà, effectivement, ça a commencé très très tôt chez lui. Alors vous consacrez un chapitre du livre L'Or Mandeville au candidat de Twitter. Alors justement, je voudrais, puisqu'on parle donc justement des tweets de Donald Trump à travers le livre de François Bouc et Vanessa Duhamel, comment est-ce que vous expliquez cette frénésie de tweets, même depuis qu'il est président des États-Unis?
Écoutez, en fait, il y a plusieurs éléments, selon moi. Un élément qui me paraît évident est lié à son caractère dont parlait à l'instant. Je crois qu'en fait, Trump est un personnage, justement, je dirais, en ce sens de son époque. Et on est dans une époque un peu infantile, disons-le, où, en fait, les réactions immédiates, les indignations, les coups de rage, tout ce qui nous vient de manière instinctive, impulsive et immédiate, on est dans le règne de l'immédiateté, doit sortir et s'écrire en 146 signe sur un écran. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, Trump est un homme de son époque, un enfant du 21e siècle. L'autre élément, c'est que c'est quelqu'un qui a le génie, je dirais, de l'utilisation des instruments, en fait, à sa disposition pour vendre ce qu'il est, et cela a été le cas quand il était homme d'affaires, et aujourd'hui qu'il est homme politique, c'est-à-dire qu'il a compris que son compte Twitter, comme la télévision, la télé-réalité, etc. avant, était un instrument fantastique un instrument de politique. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux fonctions essentielles de Twitter. La première, c'est pour lui, je dirais, un sonar. C'est-à-dire c'est quelque chose qui lui permet d'aller à la recherche de l'opinion, de la sonder, d'envoyer des ballons d'essai, de correspondre en permanence avec son électorat, mais aussi de voir si les idées qu'il lance dans le débat vont marcher. Comme c'est par définition un perturbateur du système, c'est-à-dire un homme qui veut renverser la table de la politique et qui par instinct a des instincts mais veut les tester sur l'opinion, il a là un instrument absolument fantastique. Ouais. Il faut quand même pas oublier que ça représente des dizaines et des dizaines de millions de personnes, et par ailleurs arme.
Avec des réactions immédiates.
Avec des réactions immédiates qui lui donnent une image de l'opinion très rapide. Ouais. Et c'est aussi une arme politique, parce qu'il faut bien savoir que Donald Trump est tout de même un corps étranger au système politique américain, et que toutes les élites américaines, je dirais toute la classe politique et médiatique, tout ce qui fait l'establishment politique américain, est toujours en état de sidération, et plus que ça, en état de guerre contre lui. Et donc, lui, il se défend. Et il se défend avec son compte Twitter, qui lui permet de passer par la tête de ce qu'il appelle les médias qui mentent, les médias menteurs et les élites corrompues.
Ça tombe très bien, parce qu'on va l'entendre, le président américain, lors d'une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision Fox News, c'était le 22 octobre dernier, et il va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, Laure Mandeville.
C'est tellement une question intéressante, parce que j'ai des amis qui me disent « Oh, n'utilise pas les réseaux sociaux ». Mais vous voyez, je ne les appelle pas des tweets. Twitter, c'est comme une machine à écrire. Quand je l'envoie, vous le mettez immédiatement dans votre émission. L'autre jour, j'ai envoyé quelque chose, et deux secondes plus tard, je regarde votre émission et on en parle. Ils bossent bien, et moi, j'ai toujours été un bon élève. Je suis une personne qui fait bien ce genre de choses. Je doute que je puisse être là sans les réseaux sociaux, pour être honnête avec vous, parce qu'il y a des faux médias par ici. Je suis traité injustement par les médias. J'ai une formidable plateforme. Je crois que j'ai 125 millions de gens qui me suivent entre Twitter, Instagram et Facebook. J'ai une formidable plateforme. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose sur moi, je peux m'en occuper. Sans ça, je ne pourrais pas me faire entendre.
Voilà, donc c'est clairement ça.
C'est tout à fait ça.
Voilà, je suis du côté du peuple, je contourne les élites, pseudo-élites médiatiques qui mentent, et je dis ma vérité. vérité par-delà les filtres habituels.
Et je crois qu'en réalité, Obama avait commencé à faire ça. En fait, vous avez vraiment un tournant à l'époque d'Obama, où Obama utilise notamment Google, Facebook pour contourner en fait le corps des correspondants de la Maison Blanche. Et vous savez qu'il y a déjà eu à l'époque des tensions, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient mis de côté, que Obama ne venait jamais devant eux. Mais avec Trump, évidemment, on est rentré dans une ère. Alors là, ça s'est accéléré. Et puisque, alors que sous Obama, les médias étaient quand même extrêmement favorables à Obama, aujourd'hui, c'est vrai, moi je pense que là-dessus, il a raison, que les médias sont dans l'ensemble, dans l'opposition. Et quand vous regardez comment ils se sont situés pendant cette campagne, vous avez, je dirais, une écrasante majorité, je dirais de 95% des grands journaux dans les États, mais au niveau national, qui ont pris position contre Donald Trump, et il a été élu contre eux. Donc pour lui, il est véritablement dans un combat.
Alors sur la couverture,
il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est l'omniprésence. Il y a le fait d'être constamment en train de tweeter.
Oui.
Ça crée une espèce d'omniprésence de ce personnage.
Exactement.
Il est beaucoup plus présent que notre président de la République, presque. Il fait partie de la vie. Et comme si on se disait même, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire aujourd'hui?
Exactement.
Oui. D'ailleurs, vous le dessinez sur la couverture du livre, assis en train de tweeter sur le siège des toilettes. Donc ça veut dire effectivement qu'il est omniprésent, qu'il pense en permanence et dans toutes les situations à tweeter. Alors, vous avez pas mis, parce que sur la couverture, il y a une différence entre le dessin de la couverture et le dessin qui se trouve à l'intérieur.
Ouais.
Parce que sur la couverture, le papier toilette est blanc, voilà, et à l'intérieur du livre, le papier toilette représente le drapeau des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette timidité sur la couverture, François Bouc? Vous avez eu peur de
pas acheter? Non, pas du tout, c'était simplement graphiquement, c'était plus intéressant de rester avec les mêmes couleurs, et donc c'était simplement un choix graphique. Mais le gag, je trouve plus intéressant, bien sûr,
oui, avec le drapeau. Bah oui, en plus, il est vraiment sacré, hein, le drapeau américain. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du livre, quand même, François Bouc. Il y a par exemple ce tweet daté du 3 février 2017, l'Iran joue avec le feu, ils ne se rendent pas compte de combien le président Obama était gentil avec eux. Pas moi, ça c'est un tweet réel, hein, parce qu'il n'y a pas que des vrais tweets, hein,
oui.
Dans le livre. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous êtes parti des mots, vous êtes parti des tweets, ou vous êtes parti du contexte dans lequel ces différents tweets se sont inscrits?
Tout dépend. Parfois, c'est hors contexte. En fait, quand il y a un thème comme ça qui m'est proposé à illustrer, j'ai une image qui m'arrive presque tout de suite, un peu comme sous forme de question-réponse. On pose une question avec des mots, et j'y réponds avec un dessin, et puis le dessin s'imprime presque automatiquement. Après, bien sûr, je le cisèle un petit peu plus, mais...
Ouais. Mais là, par exemple, à propos de l'Iran, vous montrez Donald Trump avec un filet à papillon qui essaie d'attraper un missile iranien avec le missile voilé, quoi. Voilà, désespérément. C'est extraordinaire, là, parce qu'on a un peu l'impression qu'il est complètement démuni par rapport à la menace. On a l'impression d'un histrion.
Oui, c'est ça. Mais je pense aussi que si le gars, il se mettait réellement dans la situation, il se rendrait bien compte que ce qu'il vient de dire avec ses tweets est irréalisable.
Il y a un côté matamor, histrion, peut-être aussi,
oui, mais...
par rapport à la Corée du Nord, parce que c'est grave quand même.
Alors...
l'homme en devine. On parle quand même de risque de conflit nucléaire,
oui,
de conflit international. L'Iran, la Corée du Nord, c'est un sujet majeur. Ça ne peut pas se régler à coup de tweet.
Oui,
pas une diplomatie du tweet quand même.
Si, je pense que si, et que au fond, d'abord, ce que dit ou écrit Donald Trump ne doit pas être pris super au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que c'est pour lui, c'est un commercial, Donald Trump, c'est un marchand, et donc la parole pour lui est un élément de négociation. Que ce soit une négociation politique avec ses adversaires du Congrès ou le dialogue qu'il entretient avec le peuple pour faire pression sur les politiques, etc. Ou que ce soit un dialogue, je dirais, global avec ses adversaires géopolitiques ou géostratégiques du moment. Et donc, quand il est en négociation avec Kim Jong-un, Il utilise son compte Twitter à la fois pour harceler son adversaire, le déstabiliser, lui faire peur, le surprendre, brouiller les cartes. En réalité, il utilise ce que Richard Nixon appelait la théorie du madman. C'est-à-dire, la théorie du madman, c'est, vous savez, faites attention, parce que moi, Donald Trump, je suis fou. D'ailleurs, regardez mes tweets, je suis prêt à vous insulter en direct. Je suis aussi fou que vous, en réalité, vous, Kim Jong-un, qui insultez tout l'Occident, qui nous a jamais répondu. Mais moi, je vais vous répondre, et si vous continuez, je vous balancerai quelque chose sur la figure.
Mais tout ça, c'est réfléchi. Il y a une vraie stratégie. Je pense c'est pas une réaction spontanée, une réaction enfantine, comme on pouvait dire tout à l'heure.
Il y a les deux. Il y a évidemment, il peut y avoir le tweet du matin où Donald Trump, je crois que ça a été d'ailleurs confirmé à la fois par certains livres, certains, comment dire, témoignages de membres de son entourage, que il est de mauvaise humeur, il est furieux, il va balancer quelques tweets comme il balancerait quelques scuds. Voilà.
Mais là, les gens de la Maison Blanche, ils deviennent fous, là.
C'est aussi une méthode politique. Et je pense qu'il ne faut pas, je crois que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas sous-estimer les méchants, ou je ne sais plus ce que vous disiez.
Oui,
et je pense que Donald Trump a été sous-estimé par ses adversaires. Tout le monde l'a enterré. Moi, j'ai assisté à son enterrement mois après mois depuis le début de cette campagne, de la campagne que j'ai suivie vraiment à la loupe. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il les a tous enterrés, les uns après les autres. Il est toujours là, et regardez, avec Kim Jong-un, malgré tout, après des décennies où finalement la Corée du Nord a fait ce qu'elle a voulu, aujourd'hui on se retrouve dans une situation où tout d'un coup, vous avez une négociation qui a commencé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc peut-être, je ne sais pas s'il aura du succès, mais peut-être qu'avec sa méthode de perturbation qui paraît absolument stupide et hors de tous les clous, Trump va peut-être finalement, par son côté perturbateur, débloquer quelque chose. Alors la question, c'est, est-ce que ça va nous emmener vers une catastrophe, ou est-ce que ça va nous emmener vers finalement une sorte de chaos productif ? Nous n'en savons rien. We don't believe you, 'cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. Simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain away the place she spit on that. The doors are signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Handsetter, baby, 'cause I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go. The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fucking numbers ain't your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about a hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in 8th division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block.
We the People, a Tribe Called Quest sur RFI, un titre dans lequel ce groupe de hip-hop new-yorkais reprend pour les dénoncer évidemment les mots que disent-ils. On a entendu qu'on aurait pu entendre dans un rassemblement pro-Trump contre les Noirs, les Mexicains, les musulmans, les gays. C'est comme ça qu'on peut résumer la campagne de Donald Trump, Laurent Deville, ou c'est
moi, je
un
trouve
petit
c'est
peu
une
plus compliqué que ça?
Oui, moi je pense que c'est une caricature, et je pense que Donald Trump a été présenté comme un raciste, anti-homo, alors qu'il était pour le mariage gay pendant quasiment toute sa vie, parce qu'au départ c'est un démocrate, donc c'est pas du tout quelqu'un qui était sur le il était libéral sur le plan de sociétal pendant très longtemps. Alors c'est vrai que pour des raisons tactiques, quand il est devenu le patron du Parti républicain et leur candidat, il a dû s'aligner sur des positions plus conservatrices pour être en accord avec l'électorat, mais en réalité c'est un New-Yorkais, n'oublions pas.
Hein, oui, alors tout. Vous surfez vous-même, hein, François Bouc, sur cette bague-là, si j'ose dire, parce que vous avez gardé donc les tweets qu'il a lui-même envoyés, vous en avez légèrement modifié, légèrement travesti quelques-uns, en ajoutant quelques formules. Enfin, c'est Vanessa Duhamel, peut-être, votre co-autrice qui s'est lancée là-dedans. Et puis, il y en a même que vous avez inventé, mais alors pas inventé de toute pièce quand même. Vous êtes parti de faits réels, vous vous êtes mis comme ça dans la tête, dans le cerveau de Donald Trump.
Je crois que à force, enfin ça c'est essentiellement le travail de
Vanessa Duhamel.
Oui, c'est elle qui, à force de comprendre la manière qu'a le cerveau de Trump d'agir, elle a pu en inventer des qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des tweets qu'il aurait pu faire.
Oui, et donc le jeu pour le lecteur, c'est de trier le bon grain de livret, en quelque sorte, oui, voilà. Et à la fin, il y a, bon ben voilà, ce tweet-là, il était bon, ce tweet-là, il était pas vrai, mais il s'est parti de telle ou telle phrase, etc. Enfin, il y a tout un petit jeu comme ça. En fait, vous participez à une gigantesque opération diplomatique de brouillage de l'image et du discours du président américain, hein, François Bouc.
Ah merde, je m'étais pas rendu compte de ça.
Ah oui, vous entrez aussi dans une forme de politique et de diplomatie là, à travers ça.
Ah oui, c'est ça. Ou de propagande.
Ou de propagande, oui.
Propagande à l'envers.
Pro
c'est,
et anti.
C'est ça aussi qui est très intéressant à voir par rapport au tweet, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de voir qu'à chaque fois, un moyen de communication est emprunté par une détermination propagandiste, que ça soit la radio pendant la guerre 39-45, ensuite comment Goebbels voulait utiliser la télévision, comment la propagande après a pris d'autres tournures avec les guerres d'Algérie, avec toutes les confusions qui ont pu l'origine de la propagande, c'est quand même Staline. C'est la propagande stalinienne qui a été utilisée par Hitler. C'était les mêmes fascicules de propagande stalinienne qui étaient chez Goebbels et tout ça, qui étaient utilisés. Et on voit finalement l'utilisation des médias toujours dans un but de désinformation au fond.
Alors il y a un tweet dans alors je sais pas s'il est vrai ou pas celui-là, dans lequel Trump dit je suis la marque la plus sexy du monde. C'est
je crois qu'il est bon celui-là.
Oui, il est bon celui-là.
Regardez celui-là.
Il est bon celui-là. Mais c'est vrai qu'il se voit lui-même comme une marque, parce que vous disiez c'est un commercial.
Absolument.
Tout à l'heure Laurent Mandeville.
Et d'ailleurs regardez, il a son au départ il fait de l'immobilier, puis après il fait du branding, c'est-à-dire que finalement il achète la possibilité de mettre son nom sur des tas d'hôtels dont il n'est pas nécessairement d'ailleurs le propriétaire. Et ensuite des marques d'eau, donc eau Trump, de cravates, de viande,
oui,
etc.
C'était avant la politique, ça.
C'était avant, mais c'est vrai que c'est l'époque où il comprend en fait que son nom, c'est son plus beau produit finalement. Et il va basculer dans les fameuses émissions de télé-réalité au début des années 2000, quand il sort après ses échecs. Il y a eu quand même des échecs, notamment dans l'investissement dans les casinos dans les années 90, dont il est sorti quand même avec pas mal de... Il avait perdu quelques plumes, et donc il s'est relancé là-dedans, et ça a été un succès absolument phénoménal, puisqu'il avait l'émission de la réalité la plus regardée des États-Unis avec près de 30 millions de téléspectateurs, et il était non seulement le producteur, mais le principal acteur, tel une statue du commandeur qui arrivait à la fin de chaque émission pour finalement être l'exemple de la réussite en matière dans le monde des affaires.
Oui, alors cette dimension-là, on la retrouve évidemment dans les dessins de François Bouc. Il y a aussi une autre dimension que je voudrais qu'on évoque, malheureusement on arrive à la fin de l'émission, c'est la dimension virile du personnage, qui est quand même extrêmement clair, voire forcé. Alors évidemment c'est de la caricature, hein, vous allez me dire, à travers François Bouc, mais quand même une caricature, ça part aussi d'une forme de réalité.
Ah oui, bien sûr, c'est lui qui suggère tout ça, hein. Donc on prend ça et puis il suffit d'appuyer un tout petit peu plus sur l'accélérateur et on a une image qui est rigolote.
Voilà, le mâle dominant, mais, la virilité.
Mais il a joué énormément de ça. C'est un, à mon avis, c'est même un des thèmes fondamentaux. Et c'est là que il y a eu, à mon avis, une erreur tactique des démocrates. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment eu un choix des Américains et des Américaines. Parce que comme vous savez, en tout cas, il y a eu une majorité de femmes blanches, par exemple, qui ont voté pour Donald Trump. Donc, c'est vrai que je pense que dans le moment dans lequel était l'Amérique quand il arrive, c'est un peu comme à l'époque de Reagan, les Américains vont vers l'homme qui incarne la protection. Parce que c'est moi, je serai l'homme qui défend la frontière, je serai l'homme qui vous protège du commerce absolument sauvage, etc., etc. Donc la dimension virile, elle est évidente. Pendant toute sa campagne, il en joue.
Merci beaucoup à tous les deux d'être...
Est-ce qu'il est réellement viril?
François Bouc, rapidement.
J'aimerais bien savoir s'il est réellement viril.
Ça,
c'est ça que...
Ça, j'en sais rien.
Dans votre documentation.
Bien, la question est posée. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en reparler. On ne sait jamais. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir, Laure Mandeville, journaliste au Figaro. On le rappelle, qui est vraiment Donald Trump? Votre livre, une coédition, Le Figaro, édition des Équateurs. Merci. Merci également à vous, François Bouc. Trump en 108 avec Vanessa Duhamel. C'est aux éditions I. Et puis, on le rappelle, les deux derniers tomes du Bunzer chez Glénat. Et puis, les deux expositions, celles qui ont déjà commencé sur les deux sites de la galerie Huberti Evren à Paris et à Bruxelles jusqu'au 31 mars. Et celle à venir à la galerie Glénat du 14 mars au 3 avril. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain pour une émission spéciale poésie à l'occasion du Printemps des Poètes qui vient de commencer en France, à l'étranger aussi, dans quelques villes du monde, avec Sandra Moussempès, Zenobianou et le parrain de cette édition 2018 qui n'est autre que l'acteur Jean-Marc Barr, connu dans le monde entier depuis le film Le Grand Bleu de Luc Besson. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.